Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h17, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion.
Bonjour Elisabeth Borne.
Bonjour.
Retour sur le débat, les chiffres du chômage, la bataille du pouvoir d'achat, la réforme des retraites, l'écologie, la menace de guerre civile, selon Emmanuel Macron. Autant de sujets sur lesquels nous allons revenir. Avant d'aller sur le fond, tout de même, commençons sur la forme. Comment jugez-vous ce débat ?
Écoutez, ce débat, c'est toujours un moment important dans notre démocratie qui doit permettre aux Françaises et aux Français de comparer projet contre projet. Je pense qu'ils ont pu voir, les Françaises et les Français, qu'il y avait deux projets très différents. D'un côté, le projet d'Emmanuel Macron, qui est un projet solide, clair, concret, sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat, sur l'écologie. Et puis, on a vu des approximations, des incohérences dans le projet de la candidate d'extrême droite.
Bon,
on a vu qu'elle était gênée,
ouais.
Qu'elle était gênée sur des sujets pourtant dont elle nous parle depuis des mois, sur le pouvoir d'achat, avec notamment des mesures dont on voit bien qu'elles sont moins protectrices pour le pouvoir d'achat que ce qu'on a pu faire.
Oui, mais
elle était gênée aussi.
On va y revenir, ça c'est sur un plan technique, mais même, par exemple, un débat entre deux personnes qui postulent à être président ou à la réélection, on veut avoir aussi une vision de la France. Là, on n'a pas perçu de vision, en fait, du pays, de la France, non,
à travers ce débat. Je pense qu'on a deux projets différents, clairement.
C'était des projets techniques,
un projet qui inscrit la France dans une Europe, qui renforce son indépendance, qui affirme sa souveraineté au plan de la défense, au plan industriel, qui doit pouvoir ensemble
sortir... La défense, on n'a pas beaucoup parlé, pardon.
On a parlé de la guerre en Ukraine.
Oui, pas de la défense en tant que telle, d'ailleurs.
Et qui doit notamment aussi sur, par exemple, tous les enjeux écologiques. On voit qu'il y a aussi deux visions très différentes. Hein. D'un côté... Un candidat Emmanuel Macron qui veut accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre, Marine Le Pen qui nous dit de façon assez surprenante, alors que le GIEC nous dit qu'il faut accélérer, qu'il faut aller moins vite. Ben, c'est deux projets différents.
Oui. Est-ce que le président n'a pas voulu jouer un petit peu au professeur quand même ? Lui donnant des herbes pour certains d'arrogance ou de condescendance.
Enfin, moi, j'ai entendu les lieutenants de Marine Le Pen dire ça. Je pense qu'ils pouvaient le dire avant le débat, vous voyez. Ils le disaient avant le débat. J'ai entendu Marine Le Pen qui a dit que le débat s'était déroulé de façon sereine, correcte, qu'il n'y avait pas eu d'outrance. Donc, je pense qu'elle a pu exposer son projet, tout comme Emmanuel Macron a pu exposer le sien, et c'était important que les Françaises et les Français voient deux projets très différents.
Alors, sur justement les projets et ces chiffres, les Français ont pu s'interroger un peu hier soir, par exemple sur le fond, sur le chômage. Les candidats sont un peu écharpés sur le nombre de chômeurs. Marine Le Pen a pris les catégories A, B et C pour dire qu'il y avait 5,4 millions aujourd'hui de chômeurs, ou 5,4 millions, je crois, et c'est ça, et contre 5,5 millions il y a 5 ans. Emmanuel Macron lui a répliqué en disant que le chômage, quoi qu'il en soit, avait baissé en utilisant uniquement la catégorie A. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, en fait, un peu ? Vous reconnaissez quand même qu'il y a ce constat.
Attendez, on ne va pas rentrer forcément dans un débat technique.
Non.
Les chiffres, ils sont donnés partout, en Europe et dans le monde, par le BIT, le Bureau International du Travail. Et ce BIT, il nous dit effectivement qu'on a baissé de plus de 2 points le taux de chômage pendant le quinquennat.
400 000.
On a baissé de
catégorie.
610 000. Chômeurs, au sens du BIT. Donc voilà, il y a une baisse du chômage. De toute façon, vous savez, on a créé plus d'un million d'emplois dans le quinquennat. Donc forcément, il y a des Françaises et des Français qui occupent ces emplois. Et c'est autant de demandeurs d'emploi de moins. Et c'est donc une bonne nouvelle.
Mais il y a ce fameux chômage partiel, quoi. Les 5 millions 4, ça existe quand même, non ?
Enfin, vous savez, sans rentrer dans le détail, ce que je peux vous dire, c'est que les chômeurs de catégorie C, par exemple, il y en a la moitié qui travaillent à temps plein. Donc c'est pas des chômeurs, c'est des gens qui sont inscrits à Pôle emploi, dont la moitié travaille à temps plein.
Oui. Bon, donc il ne faut pas tenir compte de ces chiffres.
Hein, je sais
ce que vous
dire.
Bon, sauf qu'ils existent, mais tout de même.
Honnêtement, je ne sais pas qui dans notre pays peut ne pas voir qu'on a créé un million d'emplois et qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi de moins, ce qui est une bonne nouvelle pour notre pays et ce qui nous montre qu'on doit pouvoir, dans le quinquennat qui vient, atteindre le plein emploi, ce qui est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Parce que non seulement quand vous avez un emploi, évidemment, vous avez une meilleure rémunération que quand vous touchez une allocation chômage. Mais en plus, je pense que les salariés, ils le vivent. Quand le taux de chômage est bas, vous pouvez aussi négocier votre salaire. C'est bien pour ça, par exemple, que dans les hôtels, cafés, restaurants,
on avait
une revalorisation de 16% en moyenne de la grille, parce que les entreprises ont besoin de recruter.
C'est vrai, dans ce secteur, on avait d'ailleurs un patron tout à l'heure à 7h15 qui nous disait que lui n'arrivait pas à recruter en fait aujourd'hui parce que les gens ne voulaient plus travailler autant. En fait,
ben les gens, ils veulent avoir des conditions de travail, des conditions d'emploi, des horaires et des rémunérations qui sont à la hauteur. Et quand on a moins de demandeurs d'emploi, ben ça se passe mieux pour discuter avec son employeur.
Sur le pouvoir d'achat, je pense que les électeurs n'ont pas été rassurés. Vous l'avez évoqué tout à l'heure parce que l'inflation galope en fait aujourd'hui et les réponses sont incertaines parce qu'il y a une prime Macron, hein, bien sûr, avec de l'exonération de charges, par exemple, pas imposable, mais il n'y a aucune obligation. Et puis, du côté de Marine Le Pen, c'est une incitation pour augmenter les salaires de 10%.
D'abord, il y a quelque chose de très fort qui a été fait par le gouvernement et dont Emmanuel Macron a dit que si les Français lui font confiance, ça sera maintenu, c'est le bouclier tarifaire.
Oui. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Non mais ça c'est autre chose, sur la prime Macron. Non mais attendez,
alors, sur la prime Macron, on va y revenir, c'est une obligation, ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est que on peut, en effet, quand on est salarié, être choqué de voir que son entreprise distribue des dividendes.
Quand ça marche, dans les grandes entreprises, bien sûr.
Des petites aussi.
Oui, oui, mais c'est plus compliqué, vous le savez.
Quand les entreprises distribuent des dividendes, il sera, si Emmanuel Macron est réélu, ce qu'évidemment je souhaite, obligatoire de partager aussi la richesse créée dans l'entreprise avec les salariés, donc c'est une obligation, sous une forme à déterminer par l'entreprise, de partager, de donner aussi l'équivalent d'un dividende.
Oui, c'est ça, c'est pas
encore
complètement dans toutes les petites entreprises, ce n'est pas encore très clair.
On a quelque chose de fort dans notre pays, c'est la participation pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et là, ce qu'on dit, c'est que toutes les entreprises qui dégagent des profits devront les partager.
Ça, c'est plutôt les grosses boîtes, enfin les boîtes moyennes et les grosses boîtes. Les c'est au-dessus de 50.
Aujourd'hui, et ce qu'on dit, c'est qu'en effet, ça peut être compliqué pour des petites entreprises de mettre en place la participation, mais il y a une prime de pouvoir d'achat, ce qu'on appelle la prime Macron, qui sera une alternative, mais en tout cas, il sera obligatoire que les salariés aient aussi leur part quand l'entreprise a des bénéfices.
Quand l'entreprise a des bénéfices. Sur l'énergie, vous l'avez évoqué, Elisabeth Borne, pas de baisse de la TVA, ça c'est ce que réclame Marine Le Pen de son côté. Vous, c'est le bouclier énergétique.
C'est beaucoup plus fort, vous savez, ça veut dire que...
Attendez, pourquoi c'est plus fort?
C'est beaucoup plus fort parce que le prix du gaz, il est gelé depuis le mois d'octobre. Et quoi qu'il se passe, de toute façon, il restera bloqué jusqu'à la fin de l'année, le temps qu'il faudra.
Mais ça ne va pas être éternel, ça, ce bouclier.
On espère que la situation en Ukraine va s'améliorer.
Mais vous savez qu'il y a des tensions, il y aura toujours des tensions sur les hydrocarbures.
C'est que si les Français lui font confiance...
Non mais Elisabeth Borne, ce n'est pas une solution à moyen terme, en fait, d'avoir un bouclier. Vous ne pouvez pas gouverner...
Moi, j'étais ministre de l'écologie, au moment du premier confinement, les prix s'effondraient. Donc,
parce qu'il
n'y
avait
pas formidable.
Il n'y avait plus aucune
production.
Attendez.
Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Mais il n'y avait plus aucune production.
Mais vous savez,
donc les prix s'effondraient. Il n'y avait pas de consommation.
Ce bouclier, il existera si les Français font confiance à Emmanuel Macron aussi longtemps que les prix du gaz seront élevés. Et ce qui est aussi important, c'est d'accompagner les Français parce que le risque climatique. Emmanuel Macron y croit, contrairement à Marine Le Pen, d'accompagner les Français pour sortir des énergies fossiles.
Elle l'a pas remis en cause.
Leur permettre d'isoler leur logement. 650 000 Français ont pu le faire en 2021. La proposition d'Emmanuel Macron, c'est 700 000 ménages tous les ans. Ouais. Et puis d'accompagner aussi les Français pour qu'ils puissent avoir des voitures électriques à des prix abordables, des locations de longue durée à moins de 100 euros par mois. Donc la meilleure façon de protéger les Français aussi durablement sur les fluctuations des prix des énergies fossiles, c'est pouvoir se passer des énergies fossiles.
Bon, mais c'est pas une solution, effectivement, à long terme, quoi, le bouclier.
Du coup,
protège. Vous êtes d'accord ou pas, Elisabeth Borne, là-dessus?
C'est indispensable tant que les prix sont aussi élevés. Oui. Et dans la durée, il faut sortir des énergies fossiles.
Ah oui. Mais on n'est pas sorti quand même de ces énergies fossiles, en fait. Le chèque alimentation sur le pouvoir d'achat, est-ce qu'il est définitivement chiffré, d'ailleurs?
Alors, ce chèque alimentation, on a dit qu'il fallait bien évidemment le discuter avec les producteurs, avec les distributeurs. En tout cas, l'idée, elle est claire, c'est de dire qu'il y a des Français qui ont effectivement des budgets serrés et qu'il faut les accompagner à un moment où on voit qu'on a aussi de l'inflation sur les produits alimentaires. Donc, c'est quelque chose qui sera discuté si les Français font confiance à Emmanuel Macron. le principe, il est clair, hein, c'est de dire que quand vous avez du mal à boucler les fins de mois, aujourd'hui, ce sera un chèque de
50 euros, c'est ça ?
Vous pouvez être très, très inquiet de voir effectivement le prix de l'alimentation qui augmente et qu'il faut effectivement donner du pouvoir d'achat aux personnes qui ont effectivement des difficultés à boucler le mois.
Oui, sur la réforme des retraites, quelques précisions. L'âge de la retraite, selon Emmanuel Macron, c'est bien maintenu à 65 ans, l'âge de départ.
Ce qu'a dit Emmanuel Macron, et je pense que c'est important de dire clairement les choses aux Français. On ne peut pas leur dire, vous allez travailler moins longtemps et on protège votre système de retraite. Si on fait ça, ça veut dire qu'on ne dit pas aux Français, Marine Le Pen ne dit pas aux Français qu'on baissera les pensions ou qu'on augmentera les cotisations. Et ça, c'est du pouvoir d'achat en moins pour les Français, pour les salariés. Donc la proposition, c'est de dire qu'on veut absolument préserver ce système de retraite par répartition. On vit de plus en plus longtemps, donc il y a plus de retraités. Il faudra progressivement travailler un peu plus longtemps, 4 mois par an, c'est ce qui a été indiqué par Emmanuel Macron. Évidemment, il faut tenir compte de la situation de ceux qui ont commencé à travailler tôt. Oui. C'est le dispositif des carrières longues avec des départs plus tôt. Il faut aussi tenir compte des métiers où il y a de la pénibilité, des métiers où il y a de l'usure professionnelle. Tout ça doit faire l'objet de concertations avec les organisations patronales et syndicales.
J'ai vu qu'il y a l'usure physique dont on parle, la pénibilité, mais vous avez dit il y a quelques jours aussi qu'il y avait l'usure psychologique.
C'est vrai,
qui pourrait être... Mais alors, oui, non, mais c'est bien sûr, puisque les métiers ont évolué. Mais alors, qui pourrait être concerné par cela ?
Je pense que par exemple, quand vous enseignez, quand vous êtes face à une classe, ben ça peut être fatigant et donc des professeurs, par exemple, pourraient être concernés par ces mesures de départ anticipées.
Des cols blancs aussi... qui sont aussi pressés, effectivement, dans les entreprises, pourraient être concernés
aussi,
ou pas ?
Il y a aussi un enjeu important.
Non, mais parce que c'est important, vous avez dit psychologique, mais alors comment on va déterminer effectivement ça ?
C'est des discussions qui ne vont pas se mener, c'est pas le gouvernement qui va décider de ça, c'est secteur par secteur, des discussions entre les organisations patronales et syndicales qui connaissent la réalité des métiers et qui sont les mieux placés pour savoir quels sont les métiers où il peut y avoir cette usure professionnelle. Mais il faut aussi travailler sur la prévention de l'usure professionnelle. Il ne faut pas juste constater qu'on a des métiers où il y a de l'usure professionnelle. Permettre aussi aux Français qui le souhaitent de changer de métier, d'avoir des reconversions. Donc c'est l'ensemble de ces discussions qui doivent être menées avec les organisations patronales et syndicales.
Oui, parce que là, c'est l'un des points importants. On le sait, à partir de 60 ans, il y a un taux d'emploi des seniors, qu'on appelle effectivement les seniors, qui est beaucoup moins important. Comment vous allez pouvoir y remédier pour que ces gens travaillent jusoà 65 ans ?
Vous savez,
tremblent à partir dans les entreprises, ils tremblent à partir de 50, 55 ans, parce qu'en fait, on leur indique que la porte n'est pas loin. Mais, vous le savez, en fait, depuis quelques années.
Mais c'est parfaitement exact. Et donc, du coup, il y a aussi à changer le regard qu'on peut avoir sur des seniors. Hein. Moi, j'entends des entreprises qui nous disent « je ne vais pas embaucher une personne qui a 58 ans
». Bah, oui.
Aussi parce qu'elle part bientôt à la retraite. Donc c'est aussi un peu un phénomène qui s'auto-entretient.
Donc il faudra des incitations.
Qu'il faille sortir de la discrimination à l'embauche dont sont victimes un certain nombre de seniors, qu'il faille travailler sur l'aménagement des fins de carrière, c'est clairement aussi dans le projet que porte Emmanuel Macron, donc il y a besoin de concertation avec des organisations patronales et syndicales.
Ça pourrait passer par quoi ? Par des baisses de charges, un peu comme ça existe de façon sectorielle ?
On aura ces concertations avec les organisations patronales et syndicales. Je pense que qu'on puisse changer de métier au long de sa vie, qu'on puisse prévenir l'usure professionnelle, qu'on puisse aménager les fins de carrière, c'est tous ces sujets-là dont il faut débattre dans un projet dont l'objectif, je le redis, c'est aussi d'augmenter les pensions. Ça, c'est quelque chose de très important, de revaloriser dès cet été, pour tenir compte de l'inflation, les pensions des retraités, et puis d'avoir un minimum de pension à 1100 euros, parce qu'on vit difficilement aujourd'hui avec la retraite qui, même quand vous avez travaillé toute votre vie, est à moins de 1000 euros.
Bien sûr. Deux questions encore, Elisabeth Borne, sur le voile. Emmanuel Macron pense que l'interdiction du voile entraînerait la guerre civile. C'est ce qu'il a dit à Marine Le Pen hier. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'on a perdu le contrôle républicain dans certains quartiers ?
Ça n'est pas du tout ce qui a été dit. Ce qu'a pointé Emmanuel Macron, c'est qu'on ne peut pas sortir de quelque chose qui est au fondement des règles dans notre pays, qui est la laïcité, qui est la liberté de croire ou de ne pas croire, avec des règles claires à l'école. Il n'y a pas de signe religieux à l'école, il n'y a pas de signe religieux pour les agents du service public. Par contre, il y a une liberté sur ce qui se passe dans l'espace public. Et on ne peut pas stigmatiser une partie des Français en envisageant d'interdire non pas les signes religieux dans l'espace public, mais le foulard, le voile.
Donc, il y a une instrumentalisation ou pas, quand même, parfois avec le voile.
C'est clairement mettre en cause, stigmatiser une partie de nos concitoyens en raison de leur religion. C'est ce que dit Mme Le Pen et ce qu'elle a eu l'occasion de redire
oui,
hier.
Oui, mais elle dit aussi, et je crois qu'Emmanuel Macron à un moment donné l'avait reconnu il y a quelques années aussi, qu'il peut y avoir une instrumentalisation du voile.
Enfin, c'est clair qu'il faut que les...
Sinon, vous ne l'interdiriez femmes... pas dans, les... dans l'espace, dans les entreprises publiques.
Attendez, c'est un principe fort dans notre pays. L'État est neutre, donc aucun signe d'appartenance à une religion, à un parti politique, ça c'est la base des règles dans notre République, mais on ne veut pas stigmatiser, diviser le pays, stigmatiser une partie des Français.
Ouais. Le poste de Premier ministre peut vous intéresser, Élisabeth Borne, ou pas ?
C'est pas du tout le sujet du moment. Non, là, vous savez, on a un débat. Moi, je pense qu'il faut être très respectueux des échéances démocratiques importantes. Le 24 avril, c'est un moment essentiel pour notre pays, pour l'Europe, pour notre République et pour les Français. Donc moi, je suis concentré sur une chose, la réélection d'Emmanuel Macron.
Et ensuite, on verra comment on mène les choses, quoi. Vous pourriez être sur ce poste, quoi. Parce que vous avez travaillé sur la transition écologique.
Ce que je peux vous dire, c'est que moi, ça fait 5 ans que j'accompagne Emmanuel Macron, que je suis à sa disposition et je pense qu'il le sait.
Merci Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, qui était l'invitée, la première invitée de Sud Radio, puisqu'il y en aura un second tout à l'heure.
Absolument.
Donc évidemment, égalité du temps de parole.
Et... Dans une dizaine de minutes, Julien Sanchez sera avec nous, porte-parole de Marine Le Pen et du Rassemblement National et maire de Beaucaire. Vous pourrez bien sûr commenter aussi cette interview. Et juste avant, la revue de presse avec Benjamin Glaise, à tout de suite.